bienvenue à tous sur la radio du lycée horticole de Blois.
Ouh là là, on a eu peur là pendant 3 minutes à la radio, dis donc. J'espère que les auditeurs sont pas partis se cacher sous leur lit. On revient à la thématique film d'horreur. À l'instant, on a écouté Saw, la bande originale du film, du tout premier film. Et donc autour de la table là maintenant, j'ai Ethan, Christopher, Antoine et Anaïs. Bonjour à vous déjà.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vouliez aller plus loin un petit peu sur la thématique du film d'horreur après Inès et Betty. De quoi vous allez nous parler du coup ?
Bonjour, on va vous présenter une chronique sur des films d'horreur, suivie par une interview.
Bonjour, je m'appelle Christopher et je vais vous présenter donc une chronique sur les films d'horreur. Donc on va commencer par présenter les codes du film d'horreur qui sont premièrement, un film d'horreur doit tout simplement contenir du suspense, ce qui est important dans un film d'horreur. Il faut que l'histoire d'un film d'horreur en fait, elle peut être fictive comme elle peut être inspirée de faits réels. Il y a plusieurs genres de films d'horreur qui vont être le gore comme Saw avec la musique que vous venez d'entendre, slasher comme Massacre à la tronçonneuse où le but va être évidemment qu'il y ait le plus de morts dans le film, un thriller comme La nuit des morts vivants, fantastique comme Underworld ou encore épouvante comme Amityville. C'est ce qui effraie le plus. Ensuite, nous allons passer donc à un top 10 des films d'horreur jusqu'à aujourd'hui, présenté par Antoine.
Alors le top 10, qui est-ce qui l'a fait ce top 10 ? C'est le vôtre de top 10 ?
C'est un top 10, on va dire, mondial.
Et vous l'avez trouvé où ce top 10?
On l'a trouvé donc sur internet, sur un site spécialisé en films d'horreur.
Allez, on t'écoute du coup, le top 10. Tu commences dans quel sens ? Tu fais
du 10e au 1er. Pour commencer le top 10, on aura Shining, écrit en 1980.
D'accord, donc Stanley Kubrick.
Oui. On a en numéro 9, Suspiria, en 1977.
Ouh, ça oui, ça c'était pas mal du tout, ça aussi.
Le numéro 8, Rec, en 2007. Le numéro 7, The Descent, en 2005.
Ça me dit quelque chose, oui. C'est l'histoire de gens qui sont coincés dans un gouffre et puis ils meurent les uns derrière les autres, c'est ça ?
C'est ça.
Le numéro 6, Conjuring, en 2013.
Mais le 2 était meilleur. J'ai préféré le 2, personnellement.
Ce qui est rare pour une suite, en général.
Le numéro 5, Ring, en 1998.
Et d'ailleurs, au cinéma, il y a le remake de The Ring.
Du coup, là, vous parlez du film japonais ou du film américain ?
Japonais.
D'accord, parce que moi, je l'ai vu, ce film japonais, et c'est vrai que j'ai bien eu les chocottes.
En numéro 4, Halloween, écrit en 1978.
Halloween par John Carpenter, qui a posé les bases du slasher d'ailleurs.
Avec derrière Massacre à la tronçonneuse
Vendredi 13.
Vendredi 13, ouais.
En numéro 3, The Ring, 1982.
D'accord, je connais pas.
The Thing, excusez-moi.
Oui, c'est The Thing. Ah, d'accord. Ah, parce que The Ring, sinon, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs.
The Thing en 1982.
Oui, la chose. Donc encore Carpenter, pareil, encore un truc très très flippant.
En numéro 2, Massacre à la tronçonneuse en 1974.
Réalisé avec trois bouts de ficelle, avec trois fois rien, c'est assez impressionnant le résultat.
Et qui s'est fini avec sept films au final. Avec
une série de sept films, d'accord. Ouais. Est-ce qu'ils sont tous aussi bons que le premier ?
Non.
Ok, on a tout dit.
Et en numéro 1, L'Exorciste, créé en 1973.
William Friedkin, vraiment très très bon ça aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre au menu de la chronique d'horreur ?
Eh bien après, on va passer donc sur des questionnements, donc une interview. Anaïs va donc me poser une question ou poser une question à Ethan et nous allons devoir répondre franchement.
Donc pour commencer, Christopher, que penses-tu des films d'horreur ?
Les films d'horreur, je trouve que c'est sympa à regarder en général le soir et disons que ça titille le frisson qu'on peut avoir en fait, ça peut nous donner envie d'avoir peur ou ça, c'est quelque chose d'important en fait, d'avoir peur, je trouve.
Ethan, t'en penses quoi ?
Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Les gars, quels sont vos types de films d'horreur préférés ?
Alors Antoine, du coup, toi c'est quoi ton type de film d'horreur préféré ? Est-ce que t'as un film d'horreur préféré déjà ?
Non, pas en moi.
Et toi Ethan, c'est quoi ton
moi,
style préféré ?
Moi je préfère les films gore. Plutôt.
D'accord, avec des gerbes de sang dans tous les sens.
Voilà, c'est ça.
Moi, je suis plus épouvante slasher.
Bon, avec des gerbes de sang, mais moins quand même.
Ah, mais j'aime bien quand ça fait peur, en fait, plus que quand il y a du sang.
Ok, donc les gars, quels sont les films que vous avez le plus aimés en film d'horreur ?
Antoine ?
Chacun son tour.
Chacun son tour. Pas tous en même temps, parce que sinon vous risquez de tomber d'accord.
Personnellement, je n'ai jamais regardé, donc en soi, je ne sais pas.
D'accord.
Ça ne m'intéresse pas.
Alors, j'ai une question, du coup, les autres là qui connaissent un petit peu les films d'horreur. Quel est le film que vous lui conseilleriez de voir pour on va dire, rentrer dans cet univers-là ? Par quoi on commence ?
Par un classique, L'Exorciste, par exemple.
L'Exorciste, d'accord.
Un très très bon film.
Ok.
Le tout premier, bien sûr.
Exactement, ouais. toi, Ethan, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller plutôt
Moi, je conseillerais plutôt Massacre à la tronçonneuse.
D'accord, donc deux classiques, des films qui ne vieillissent pas. Et alors, du coup, on reprend la question. Vous, vos films préférés, c'est ceux que vous avez conseillés ou c'est d'autres?
Après, moi, mon film préféré, personnellement, j'en ai pas plus que ça, en fait. J'adore les films d'horreur, donc on va dire que ce qui va rester dans mes préférés, ça va être... En tout cas, ceux que j'ai le plus regardés, ça va être Dussault, que j'avais énormément aimé, et pourtant qui ne rentre pas dans ma catégorie préférée.
Ouais, parce que c'est quand même très explicite.
C'est que du gore, mais j'adore.
D'accord. Donc, et toi, Ethan, du coup?
Pour ma part, c'est Détour mortel.
Je ne connais pas bien, tu peux nous expliquer un petit peu le principe?
C'est une famille de tueurs en série qui va tuer des gens qui sont perdus dans les forêts ou des choses comme ça.
C'est des cannibales.
Voilà.
Ça a l'air sympa. Une petite question encore?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être choqué par un film?
Ça m'est arrivé de me retrouver mal à l'aise face à un film, mais choqué, non.
Et toi, Ethan?
Ouais, au début, je regardais des films d'horreur, par exemple, Détour mortel 4.
Ah, ils en ont fait 4 en plus?
Non, 8.
Non,
ah, d'accord, ok.
Le 4, c'était un des premiers que j'ai regardé, il m'a choqué un petit peu au début, et puis ça a été après.
D'accord. Toi, Antoine,
Je passe.
Tu passes, ok, ça marche. Très bien.
Quels sont les films que vous avez moins aimés, du coup, parmi les films d'horreur?
La liste peut être longue, là, je pense. Hein.
Allez, un seul film.
Un seul film, parce que du coup, des mauvais films d'horreur, je pense qu'on peut en citer plus que des bons, d'ailleurs.
C'est pas forcément des mauvais, ça peut être
moi,
qu'on
je
a
sais pas,
pas
trop.
C'est pas faux.
Je sais pas trop, j'ai pas de film d'horreur que j'ai pas aimé.
Dès qu'on te met devant un film d'horreur, tu vas apprécier.
Oui, tout le temps.
Moi, j'ai pas trop aimé Détour mortel, justement. Je connais l'histoire, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré plus que ça. L'histoire, pour moi, elle est pas intéressante.
Pour finir, une dernière question. Est-ce que vous pensez que les films d'horreur basés sur des faits réels, ils vont avoir plus d'impact que les films où ils sont basés sur de simples faits inexistants?
Est-ce que le fait qu'on sache à l'avance que ça s'est vraiment passé, ça fait plus peur que uniquement des histoires totalement inventées?
Ça, pour moi, personnellement, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont préférer se faire peur sur des histoires qui vont être inventées plutôt que des histoires réelles. Après, ça dépend vraiment en fait, de la façon que les gens voient le film, en fait. Moi, par exemple, pour moi, ce qui va me choquer le plus, ça va être un film qui va être fictif plutôt qu'un film qui va ne pas l'être.
Et toi, Ethan, du coup, ton opinion là-dessus?
Je pense que ça choque plus quand on sait que c'est inspiré de faits réels.
Et toi, Antoine, tu as une petite idée un petit peu?
Oui, quand même.
Qu'est-ce qui pourrait te faire plus peur, sachant que ça a vraiment passé ou c'est totalement inventé?
Ce qui peut faire plus peur, c'est des choses inspirées du fait réel, par exemple. Dans l'idée, tu te dis, c'est vraiment arrivé, donc quand tu vois le film, tu commences à te dire, oula, quand même.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que tu te dis, oula, quand même, quand t'en regardes?
J'ai pas compris, c'était une private joke, peut-être, là.
Ouais,
Bon,
les auditeurs de Studio Zef apprécieront. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres questions à poser aux garçons?
Non, pas du tout.
Ok. Ben, je vais vous laisser retourner à vos activités. Juste avant de partir, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur quels ateliers vous êtes mobilisés cet après-midi au lycée Horticole?
Bien, moi, Antoine et Anaïs, on est sur le parrainage pour Sherkan, donc le tigre blanc du zoo de Beauval.
Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Parce que ça peut peut-être inciter les gens à aller acheter des boissons et des gâteaux, c'est ça?
Non.
D'accord, rien à voir.
Le but de notre parrainage, en fait, c'est on parraine un animal, ce qui est Sherkan dans l'occurrence, un tigre blanc du zoo de Beauval. Le but de ce parrainage, c'est de financer l'argent qu'on gagne avec le parrainage-là est financé pour l'association Beauval Nature, qui eux-mêmes dispatchent l'argent entre 15 centres dans le monde pour la protection des animaux et de leur milieu.
Donc, grâce à l'argent que vous récoltez pour Sherkan, il y a des animaux qui sont protégés partout dans le monde.
C'est ça?
Oui, dans l'environnement, et ils sont aidés aussi pour la reproduction de l'animal.
Super. Eh ben, bravo pour cette initiative. Comment on fait pour vous aider dans ce parrainage? On vous donne de l'argent, c'est ça?
Oui,
c'est ça.
Un don en petite monnaie, avec des petits billets, des gros billets, plein d'argent, plein.
C'est ça.
Ça marche.
Après, Ethan, lui, il a un truc différent.
Je peux expliquer?
Vas-y, explique-nous.
Donc,
justement.
Je suis avec Colin et Maxime. Nous, on est, on se charge de récupérer des téléphones portables pour donner aux zoos de Beauval, parce qu'ils contiennent du coltan et ça se trouve sur le milieu naturel des singes, et du coup, ça cause leur disparition.
Alors, quel singe en particulier?
Le gorille, le chimpanzé et puis les bonobos.
Ça, c'est un métal qu'on trouve dans les téléphones portables?
Oui, c'est ça.
Qui est extrait en Afrique?
Oui, en République démocratique du Congo.
Du coup, comme l'exploitation du métal du coltan provoque la disparition du chimpanzé, du gorille et du bonobo?
Oui, c'est ça.
On peut récupérer le métal qui est dans le téléphone pour le réutiliser dans des nouveaux téléphones?
Oui.
Comment on fait pour aider cette initiative-là? On vient avec son vieux téléphone?
Oui, on vient avec son vieux téléphone et puis on est en salle 2 pour le récupérer.
D'accord. Donc tous les auditeurs de ZEF qui vont venir cet après-midi au lycée Horticole, vous pouvez fouiller dans vos vieux tiroirs et trouver vos vieux téléphones. Je pense qu'on en a tous un ou plusieurs dans les tiroirs de la maison. Donc n'hésitez pas à les prendre. En général, on ne sait pas quoi en faire en plus. Donc là, c'est l'occasion que ça serve à une très très bonne cause. Juste pour préciser, du coup, les téléphones, vous les donnez à Beauval et Beauval, du coup, s'occupe du recyclage derrière.
Voilà, c'est ça.
Bon, ben, on les remercie alors pour cette initiative. Et puis, on vous remercie aussi pour cette chronique et puis ces petites explications sur les projets que vous menez au lycée Horticole.
Merci à vous.
Je vous laisse retourner à vos occupations. Et puis, du coup, on va pouvoir accueillir la chronique suivante. Et on va parler un petit peu de sport. Mais avant, on va peut-être se faire... Allez, on va se refaire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux auditeurs de ZEF ? Un petit morceau de Dorothy, Gun in My Hand, ça peut être pas mal, ça ? Histoire de conclure la thématique film d'horreur. Ça, c'est un morceau qui était dans un jeu vidéo The Walking Dead. On va pouvoir finir là-dessus, puis on va pouvoir partir. Donc tout de suite, Dorothy, Gun in My Hand.
Why did love put a gun in my hand? Why did love
Morty sur Studio ZEF.
Excellent petit jingle proposé par les secondes TCVPJ. On a fait ça cette semaine. Je leur ai prêté un micro et ils se sont amusés. Ils se sont bien amusés, j'ai l'impression. On finit un petit peu notre petit tour de la culture au lycée avec Emilien et Carla qui ont choisi de nous parler de rugby. Pourquoi ce choix de rugby ?
Parce que déjà, moi, c'est l'une de mes passions. J'ai pratiqué le rugby pendant 9 ans au club de Bracieux.
Okay.
Et j'ai été sélectionné 7 fois en équipe régionale et 2 fois en équipe départementale.
D'accord. Tu joues à quel poste ?
Je joue talonneur.
Talonneur, ok. Ben, on vous écoute alors.
L'équipe de France de rugby à 15, aussi comme sous le nom de 15 de France et des Bleus, est l'équipe qui représente la France dans les compétitions majeures de rugby à 15. D'autres équipes représentent la France dans des compétitions internationales de l'équipe à 15. L'équipe A, qui est une équipe réserve de l'équipe Fagnon, l'équipe des moins de 20 ans, l'équipe féminine, etc. Elle rassemble les meilleurs joueurs de France sous le patronage de l'USSA, 1906 à 1919, puis de la Fédération française de rugby, depuis 1919. En 1910, la France est admise à participer à la compétition opposant l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, qui prend à cette occasion le nom de Tournoi des Cinq Nations, appelé Tournoi dans la suite, et fin ainsi son apprentissage de rugby international. En se mesurant à ses équipes, elles atteignent leur niveau au milieu des années 1950 et remportent la première de ses 25 victoires dans le tournoi en 1954. En 1968, le 15 de France signe son premier grand chelem. 8 autres suivront jusqu'en 2010. Sur un plan mondial, depuis son tout premier match international en 1906, le 15 de France connaît une rivalité historique avec l'équipe de Nouvelle-Zélande, marquée par sa première victoire de l'Eden Park d'Auckland 1979, son essai du bout du monde victorieux en 1994 au même endroit où les All Blacks n'ont plus jamais été battus depuis lors. Deux succès en Coupe du Monde, demi-finale 1999 et quart de finale en 2017. Et deux défaites en finale de la compétition planétaire 1987 et 2011. Avant de subir un revers historique 62-13 en quart de finale de la Coupe du Monde 2015. Sur les continents européens, c'est avec l'Angleterre que la rivalité est la plus forte. Les oppositions annuelles entre les deux nations ayant gagné l'appellation le Crunch, le monde crucial.
Un petit détour rapide, du coup, tu veux nous parler du top 14, c'est ça ?
Oui, top 14.
Ah, rapidement, parce que du coup, on a un petit peu de retard sur le planning.
D'accord, non, mais c'est pas grave. Donc, déjà, bah, pour fignoler un peu la chronique de Carla, donc le rugby, il a été créé par un certain monsieur William Webb Ellis. C'était un grand monsieur du rugby, parce qu'il a quand même fait un très grand effort pour créer ce sport. Ça a fait quand même un grand truc au niveau mondial, d'une pour l'équipe de France. Donc, le championnat de France de rugby à 15, dénommé Top 14 depuis 2005, est une compétition annuelle mettant aux prises les meilleurs clubs professionnels de rugby à 15 en France. Créé en 1892 sous l'égide de la Fédération Omnisports USFSA, il est alors organisé par un comité chargé du rugby avant d'être pris en charge à partir de l'édition 1921 par la toute jeune Fédération française de rugby depuis 1998, c'est la Ligue nationale de rugby qui l'organise. Donc le vainqueur de ce championnat, donc top 14, remporte comme le trophée le bouclier de Brennus. Et au cours de sa longue histoire, le championnat de France a été marqué à plusieurs reprises par des cycles de domination de certains clubs pendant 10 à 15 ans. Dans l'ordre chronologique, on relève l'hégémonie des deux clubs parisiens, du Racing Club de France et du Stade Français 1892-1903, puis celle du Stade Bordelais, du FC Lourdes, de l'AS Béziers et du Stade Toulousain. Entre 1994 et 2008, le Stade Français, le Biarritz Olympique et le Stade Toulousain se sont partagés les 15 titres mis en jeu. Cette hégémonie à 3 prend fin en 2009 avec la victoire de Perpignan et le championnat connaît ensuite 6 vainqueurs différents en 7 saisons. Donc le plus grand vainqueur du championnat de France, c'est Toulon, le RC Toulon, qui a été 3 fois champion d'Europe et qui a gagné 2 fois le top 14. Donc c'est une très grande histoire au niveau du rugby français. La formule du championnat a été plusieurs fois modifiée au cours de son histoire, avec l'introduction du professionnalisme en 1995. Le nombre de clubs de la division d'élite a diminué notablement, passant de 24 à 16, puis finalement à 14 clubs en 2005. Il s'est ainsi successivement appelé Top 16, Top 14, Rugby Top 14, Orange à la suite d'un partenariat de la Ligue avec un opérateur de téléphonie en 2008, puis un nouveau Top 14. Après, suite à ça, donc, bah, le Top 14, les différentes équipes, le sélectionneur Guy Novès, bah, il sélectionne les différents joueurs français, ils ne sont pas français mais qui ont été reconnus nationalité française, pour pratiquer aux Coupes du Monde, comme l'a dit Carla, au tournoi des 5 nations. Et des fois, il y a des matchs de préparation à des tournois, Coupe du Monde, tout ça.
Je vous remercie pour cette petite chronique rugby. Je vous laisse retourner à vos occupations. Vous faites quoi cet après-midi, vous ?
Rempoteuse.
Ouais, pareil, rempoteuse.
Puis je l'ai dit tout à l'heure quand je suis passé.
C'est vrai, c'est vrai.
Jeux vidéo, les différents modes de multiplication au niveau de la production horticole.
C'est vrai, j'avais pas écouté à ce moment-là. Là, c'est bon, j'ai bien intégré. Je te remercie. Là, merci à vous.
Merci de rien.
De rien.
Au revoir. On va faire une petite pause musicale rapide. Et puis, on revient juste après. On va essayer de parler un petit peu de débats de société préparés par les lycéens. À tout de suite.
Vous êtes bien sur Annie Mortier sur Studio Zef.
On revient en plateau sur le lycée Horticole aux journées portes ouvertes. En plateau, donc du coup, on a trois jeunes filles qui nous ont préparé une petite présentation. Alors, on a Emma, Guylaine et Miendine. Bonjour les filles.
Bonjour.
Vous aviez envie de parler d'un sujet de société, un sujet qui fait débat. En l'occurrence, vous aviez envie de parler de quoi ?
Des free parties.
Des free parties. Alors, qui est-ce qui veut commencer à nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est qu'une free party ?
Les free parties sont aussi appelées rave parties ou teuf. Ce sont des fêtes de nuit gratuites où l'entrée est une donation. Afin de pouvoir rémunérer les sound systems, ils sont les organisateurs et qui installent leur système de sonorisation, appelé dans le milieu mur de son. D'ailleurs, ils mettent souvent en place des infolines qui permettent de donner les informations sur le lieu, car ils restent tenus secrets jusqu'au début de la fête. Les teufs se déroulent très souvent sur des terrains abandonnés, des hangars et des usines désaffectées. Le « free » de « free party » qui ne désigne pas seulement le terme de gratuité, mais également le terme « libre ».
Ensuite, du coup, tu voulais rajouter quelque chose ?
C'est dans la fin des années 80 en Angleterre que débutent les rave parties, ainsi qu'en France, en Allemagne et en Belgique. Mal organisées, les premières free parties engendrent beaucoup d'incidents, occasionnant des interventions policières très fréquentes. Les terrains après la fête étaient détériorés, gérant un mépris aux yeux des observateurs extérieurs et considèrent les teufeurs comme des marginaux usant de substances psychotropes.
Est-ce que c'est toujours le cas, ça ? Miendine, du coup, qu'est-ce que tu peux dire pour aller plus loin ?
Bah, à l'époque, c'était encore pire. Mais maintenant, un peu moins, parce que c'est beaucoup plus cadré, on va dire, et beaucoup plus réfléchi à comment ils vont poser leur mur, là où ils vont le faire. Mais c'est encore...
Limite.
Encore limite, parce que bah, forcément, ça fait pas si longtemps que ça existe, et donc voilà. Sinon, je peux parler d'aujourd'hui, des free parties.
Exactement, oui, vas-y.
Oui, donc aujourd'hui, les free parties, elles sont encadrées, donc il y a une sécurité qui est mise en place, pas par la gendarmerie, mais par eux-mêmes, en fait. Surtout aussi, le truc avant, c'est que les terrains où ils posaient, c'était complètement dégradé, ils nettoyaient rien, il y avait des déchets partout. Alors que maintenant, les sound systems, donc ceux qui posent, à la fin de chaque teuf, ils nettoient tout entièrement et de leur plein gré. Donc c'est beaucoup mieux comme ça.
D'accord, donc ils font un peu plus attention, ils font attention aux riverains et tout ça, d'accord.
Donc y a de la loi et... Elle est un peu moins dure avec eux et les violences policières aussi, elles sont un peu moins violentes.
Donc ça veut dire qu'avant, la police arrivait et démontait tout
Ah oui, tout le temps direct.
D'accord.
Mais enfin, ça dépendait, si c'était vraiment trop gros, ils ne pouvaient pas. Mais,
D'accord.
Maintenant, les toffers, ils souhaitent aller à la rencontre de tout pour casser les limites en gros et pour montrer la richesse de leur culture et leur générosité, leur engagement.
C'est un sujet qui vous intéresse, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou expliquer aux auditeurs un petit peu l'intérêt que vous avez vis-à-vis des free parties, est-ce que c'est un mouvement que vous connaissez ou vous avez fréquenté un petit peu ?
Oui.
Et si quelqu'un veut réagir, oui ?
Oui, on en a fréquenté.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené là, dans ce milieu-là, un petit peu ?
C'est qu'aux infos, dans les médias, quand ils en parlent, ils dégradent beaucoup les teufs, ils rabaissent beaucoup...
Le mouvement, ouais. D'accord.
Et puis du coup, ça nous a donné envie d'aller voir par nous-mêmes. Et ça nous a vachement plu quand même.
Et est-ce que du coup, est-ce que entre l'image qui est donnée et la réalité, il y a une grosse différence ou...
Ah oui, on a des exemples en plus.
Alors bah vas-y, on t'écoute. T'as un exemple de différence entre l'image et la réalité ?
Bah j'ai un exemple d'une teuf justement qui s'est passée il y a pas longtemps et qui est passée aux informations justement où il montrait que tout s'était carrément bien passé en fait. Bah, c'était ça s'appelait Hangar Smic 3. Ça s'est déroulé il y a 2 semaines en Bourgogne à Chemilly-sur-Yonne, sur un terrain militaire abandonné. Donc déjà là, c'était directement une mauvaise image parce que
oui, ils sont
un
rentrés
terrain
dans...
militaire, voilà. C'est...
Ils sont rentrés sur un terrain qui n'était pas autorisé.
Et puis ça a été donné au dernier moment et tout ça. Mais au final, ça a duré 24 heures. Il n'y a eu que 2 déplacements. Les pompiers sont venus 2 fois. Et au total, il y a eu 5000 personnes. Et tout s'est extrêmement bien passé. Après, quand ça s'est terminé, pendant 2 jours, il y a des personnes qui ont... Bah, tous ceux qui sont restés, ils ont correctement tout nettoyé. Ça s'est super bien passé avec la gendarmerie. Et c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et ça s'est extrêmement bien passé.
Bon, bah, je vous remercie. Est-ce que vous aviez éventuellement autre chose à proposer, à faire écouter
Oui.
Ouais.
Bah, sinon, la musique des Teufers, parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
Puis c'est important de parler de musique, puisque c'est avant tout un rassemblement musical.
Donc il y a plusieurs styles qui existent.
Ouais.
Il y a plusieurs styles qui existent. Il y a la techno. Bah, de base, c'est la techno. Qui est la trance, l'hardcore, la jungle, l'acide. Et puis bah, du coup, on vous invite à écouter un morceau d'acide qu'on a choisi.
Ok. Avant qu'on l'écoute, du coup, c'est une musique que vous appréciez ?
Ouais,
il y a une musique en particulier. Alors quelqu'un qui n'y connaît pas trop grand chose comme moi, par exemple, qui suis déjà un petit peu plus vieux, qu'est-ce que vous pouvez conseiller éventuellement pour faire découvrir la musique, on va dire la musique de teuf ? Qu'est-ce qu'il faut écouter un petit peu ? L'acide ? Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous écoutez du coup, les filles ?
Le hardcore.
Alors c'est quoi la différence entre l'acide et le hardcore, par exemple ?
Ouais, ça dépend. L'hardcore, ça va être très... Ça va monter très vite dans le boom-boom, on va dire.
Ouais.
Alors que l'acide, ça va être un...
Plus planant ?
Ouais, pas beaucoup plus, mais c'est différent.
Progressif.
Plus progressif, ouais. D'accord. Ça va monter doucement, tandis que l'hardcore, ça va être plus rapide.
Ça marche. Et bah, du coup, on écoute un petit morceau, du coup. Est-ce que tu peux nous présenter ? Est-ce qu'il y a un artiste derrière le morceau ?
Non, en fait, comme c'est des sound systems, c'est des sound tracks et il n'y a pas de...
De parole.
Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de... Puis, en fait, c'est plein de musique superposée que des personnes mélangent, donc on ne peut pas donner de nom à particulier.
Okay. Ça marche. Bah, du coup, on va écouter un petit peu de acide, de techno-acide. Ça va changer de la musique qu'on écoute d'habitude sur Zef. Ça va nous faire du bien. Thank you.
Sur Annie Mortis, c'est sur Studio Zef.